Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une, cette bonne nouvelle en Ituri, près de 200 otages des ADF sont désormais libres. C'est grâce aux opérations militaires menées par l'armée ces deux derniers jours dans le territoire de Mambasa. Relance de l'agriculture au sud du Bangui. Le gouvernement vient redynamiser pour cela le CDI Boamanda, une structure habituée à accompagner les agriculteurs. Boamanda et le ministère de l'économie nationale ont signé un protocole d'accord en ce sens hier à Kinshasa. Les avancées des travaux de la route Kananga-Kalambambouchi dans le Kasaï central, nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Serge Dibwe, chef de mission de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Bienvenue à ce journal qui part de l'Ituri. Environ 200 otages des rebelles des ADF ont été libérés ces deux derniers jours lors des opérations militaires menées dans le territoire de Mambasa. Ces personnes avaient été enlevées au mois de mars dernier lors de plusieurs attaques de ce groupe armé dans une dizaine de villages de ce territoire. La société civile appelle l'armée à intensifier des opérations afin de libérer environ une centaine d'autres personnes encore détenues par les ravisseurs. Ces informations de Isaac Rémo sont rendues ici par Jean-Claude Lokidile.
Ces otages ont été libérés en plusieurs vagues depuis mercredi dernier, principalement dans les localités de Bandiboamé et Babumbe, situées à une trentaine de kilomètres de Mambasa Centre. Selon la société civile du Congo, au total, 144 d'entre eux se sont rendus au FRDC. Plus de 50 autres ont réussi à s'échapper pendant les opérations militaires et ont rejoint directement leurs familles, soit dans le territoire de Mambasa, soit encore au Nord Kivu. D'après cette structure citoyenne, environ 400 personnes avaient été prises en otage par les ADF depuis la mi-mars dans les villages de Makoko, Muchacha, Bandiboamé, Pumuzika, Manya, Mambukulu et Lumalisa. Elle appelle les forces conjointes FRDC et armée ougandaise UPDF à intensifier les opérations afin de libérer les autres otages. Marie-Noëlle Anotane, présidente de la société civile du Congo à Mambasa.
Nous demandons cette bravoure-là qu'elle puisse continuer dans le chef de la coalition, qu'il parte dans la profondeur pour démanteler toutes les bastions de ZADF. Ça va encore permettre de libérer tous les autres otages.
De son côté, l'armée confirme la libération de ces otages sans fournir plus de détails. Il convient de rappeler que lors des attaques des ADF depuis 8 mars dernier, au moins 100 personnes ont été tuées, des milliers d'autres ont fui leurs habitations avec d'importants dégâts matériels. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Naufrage d'une embarcation lundi dernier sur le lac Tanganyika. Le gouvernement provincial du Tanganyika s'est exprimé à ce sujet mercredi au cours du Conseil provincial des ministres. Dans son compte rendu, son porte-parole annonce un bilan de 30 morts, en majorité des femmes et des enfants. Il évoque aussi 14 rescapés et des disparus dont le nombre n'est pas connu car il n'existe aucun manifeste. Le Conseil des ministres du Tanganyika a pris certaines résolutions suite à ce drame. On écoute à ce sujet le porte-parole du gouvernement provincial du Tanganyika. Les propos du Raphaël Lopungwe sont sélectionnés par Paulin Mounanga.
Le conducteur a pris fuite après avoir réussi à détacher le moteur qu'il a emporté avec lui. Les services de sécurité sont à sa recherche car il a été formellement identifié. Le maire de la ville de Kalemi ainsi que le bourgmestre de la commune de Kalemi qui ont été invités pour la circonstance ont apporté des éléments supplémentaires, notamment que la majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Ils ont aussi renseigné que pour éviter la décomposition des des personnes décédées. Ils ont entrepris les démarches avec les familles des disparus pour l'inhumation dans la dignité des personnes décédées. Le Conseil a pris les résolutions suivantes. Descendre sur le site de Kasama du ministre des Transports et celui de l'Action humanitaire afin d'évaluer la situation. Une assistance aux familles éplorées qui ont perdu les êtres chers afin de leur permettre d'organiser dignement leur deuil. Une assistance aux personnes rescapées ayant perdu leurs marchandises et leurs biens dans le naufrage.
Au Kasaï central, pendant ce temps, 3 personnes ont trouvé la mort en l'espace de 5 jours dans la rivière Lulua, dans le territoire de Luisa. C'est précisément sur l'axe Luisa-Mweneditu. À l'origine de ce drame, les pluies récurrentes qui s'abattent dans la région et qui ont provoqué des inondations et ont submergé la rivière, la passerelle érigée sur cette rivière. La société civile locale indique que la circulation des personnes et des biens est devenue difficile. Elle craint d'autres dégâts dans les jours à venir. Elle appelle pour cela le gouvernement central à intervenir en urgence pour pour construire un pont sur cette rivière. DDT avec André Katin Dengalamloumé.
D'après nos sources sur place, les pluies diluviennes qui s'abattent dans la région ont entraîné une montée des eaux de la rivière Louloua sortie de son lit. Cette situation a causé la mort par noyade d'un homme dans les groupements des Anamuyero ainsi que de deux autres personnes dans les groupements des Anakajimbi Kachuru. Ces personnes sont mortes au moment qu'elles traversaient la rivière. Pauline Kongolonsaka, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans les territoires de Luisa, appelle les gouvernements centrales à intervenir en urgence pour construire un pont sur cette rivière. Selon lui, cet ouvrage faciliterait la circulation sécurisée des populations sur cet axe routier reliant les territoires de Luisa à la ville de Mwenaditu en passant par la province de Lomami. Après avoir constaté le danger, l'administrateur du territoire de Luisa a interdit la traversée de la rivière jusqu'à la décrue des eaux. En attendant, la population reste confrontée à de nombreuses difficultés. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Et à Kindu, la coordination provinciale du Centre congolais de lutte anti-mine du Maniema a célébré hier 16 avril au stade Camp Makuta la journée internationale pour la sensibilisation à la lutte anti-mine. Elle est placée cette année sous le thème « Investir dans la paix, c'est investir à la lutte anti-mine ». Le coordonnateur provincial de ce service de l'État fait savoir que son organisation s'engage à mener des actions dans l'éducation au risque des engins explosifs, le déminage humanitaire et l'assistance aux victimes. On écoute Serge King Matinda dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Afin d'accomplir nos cinq piliers qui regorgent les cessez-le-feu, mais celui des sensibilisations et assistance aux victimes des restes explosifs de guerre, nous sommes débattis bec et ongles ensemble avec la coordination provinciale pour assister avec le vivre et non vivre par nos voyants militaires et commandants et soldats des FARDC. En les dotant quelques vivres et non vivres, il était pour nous l'occasion de les interpeller, de faire une large diffusion aux lignes de front que les mines, les bombes et les restes explosifs de guerre tuent. Alors, parce que nous, les agents et cadres de CCLAM, nous n'arrivons pas en ligne de front. Il sera question pour eux d'élargir ces mêmes échanges de la sensibilisation à la lutte anti-mine et sauvegarder la population, les fils et filles congolais se trouvent sur ce sol. C'est là, sous le haut patronage du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemin Chaban-Loko. Nous tenons également à remercier le garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui ménage des efforts afin que la terre soit une terre saine, clean et propre et sans danger lié aux mines et restes explosifs de guerre. En tout cas, nous devons tenir compte pour que les mines ne soient plus dans notre province, dans notre pays et partout ailleurs.
Le gouvernement central franchit une nouvelle étape dans sa politique de relance du secteur productif. Le ministère de l'Économie nationale et le CDI Bamanda ont signé hier à Kinshasa un protocole d'accord pour redynamiser la production agricole dans la province du Sud-Ubangi. À travers ce partenariat financier à hauteur de 7,7 millions de dollars américains via le Fonds de régulation économique, les autorités entendent renforcer les filières maïs et soja, mais aussi améliorer les conditions de production des agriculteurs et garantir un meilleur approvisionnement des marchés, notamment à Kinshasa. Blechinda Nikambala nous en dit plus.
Le projet prévoit notamment la distribution des semences améliorées, l'accompagnement technique des producteurs ainsi que le renforcement des capacités de transformation, de stockage et de transport des produits agricoles. Les fonds de régulation économique qui accompagnent cette initiative soulignent que ce type d'appui vise à stabiliser les prix des denrées de base tout en soutenant durablement la production locale. Pour les responsables du secteur, cette signature n'est pas un acte isolé mais l'aboutissement d'un processus engagé depuis 2024 après plusieurs missions d'évaluation menées par le ministre de l'économie dans les zones à fort potentiel agricole, dont les Sud-Ubangi. Sur le terrain, le CDI Bamanda, fort de son expérience dans l'encadrement des producteurs, voit dans ce partenariat une opportunité de relancer ses activités au bénéfice des populations rurales. Révérend Père Dominique Dewesana, directeur général du CDI Bamanda.
Ce programme vient en appui aux activités du CDI Bamanda. Ça vient de redynamiser les activités du CDI Bamanda, qui est habitué à accompagner les paysans. Et ici, il y aura question d'assurer la sécurité alimentaire, développer les filières agricoles et aussi valoriser la production locale. Avec cela, je pense que c'est une façon vraiment idéale et puis un modèle à suivre pour booster l'économie à partir de communautés locales.
À terme, ce programme devrait améliorer les revenus des agriculteurs, renforcer la sécurité alimentaire et contribuer à la baisse des prix des produits agricoles sur les marchés.
RDC, de nouvelles structures de prix de produits pétroliers ont été adoptées hier jeudi à Kinshasa par le comité de suivi des prix de produits pétroliers, une structure gouvernementale. Cette décision intervient en raison de la guerre au Moyen-Orient. Dans la zone ouest, le prix du litre de gazole augmente de 205 francs congolais. Il passe ainsi de 2430 à 2635 francs. Celui de l'essence prend 200 francs congolais de plus. Il est relevé de 2440 à 2640 francs. Pour la zone sud, les prix à la pompe sont fixés à 3930 francs congolais le litre pour l'essence et 4435 francs congolais pour le gazole. S'agissant de la zone est, le prix du litre d'essence revient désormais à 4400 francs congolais, tandis que celui du gazole est établi à 5600 francs congolais. Retour en Ituri, la MONUSCO a remis vendredi aux populations du territoire d'Irumu un pont d'une capacité de 10 tonnes. Construit dans le cadre d'un projet à impact rapide, cet ouvrage situé au village Bavonkutu facilite désormais l'évacuation des produits agricoles, la circulation des personnes, notamment des élèves, ainsi que des opérations de traque des ADF dans la zone. Les autorités coutumières saluent cette initiative qui contribue au développement local. Isaac Rémo.
D'une longueur d'environ 10 mètres et d'une capacité de 10 tonnes, le pont Massinda a été construit par les casques bleus indonésiens de la MONUSCO dans le cadre du projet Impact Rapide de la mission. Cet ouvrage répond à une demande de la communauté locale qui utilisait jusque-là une simple passerelle en bois peu adaptée au passage des véhicules. En période de pluie, la circulation était souvent interrompue, les eaux de la rivière Massinda débordant régulièrement. Selon des sources locales, ce pont va faciliter l'accès aux zones de desserte agricole, renforcer les échanges économiques entre les territoires d'Irumu et de Mambasa et appuyer les opérations de traque des ADF dont la menace persiste encore dans la région. Christophe Mounianderou, acteur de la société civile.
Nous sommes dans une zone menacée par les terroristes ADF. Qu'il n'y a pas de tel pont qui pourrait permettre aux forces armées pour une intervention rapide, c'est aussi un danger. Mais voilà, c'est déjà pour nous un grand avantage.
De son côté, l'administrateur du territoire d'Irumu qui a réceptionné l'ouvrage au nom des populations locales a souligné que cette infrastructure va contribuer au développement local et au bien-être des populations. Il convient de noter que la MONUSCO a déjà réalisé plusieurs ouvrages dans ces territoires dans le cadre de son appui aux institutions nationales pour la protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Kisangani, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la commune de Lubunga ont officiellement démarré mardi dernier. Au total, 15 km de route seront asphaltés. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Si l'enthousiasme est au rendez-vous chez les habitants, certains observateurs préfèrent rester prudents. Le point avec vous, Jacques Mkonkole.
Les axes ciblés sont notamment les avenues Bichibak, Anaflukus, avenue de la Poste et celle de la gare. Les boulevards Opala, Assande et Kasumbu sont également ciblés. La population s'est dit satisfaite.
Tous les chefs de l'État qui ont précédé, on n'a jamais vu ça. Maintenant, on a senti parce que le parti a promis, on vient de réaliser. Lubunga était dans les oubliettes. Avec ça, ça va redorer les activités commerciales.
Le temps est plus nuancé du côté des forces vives. Tout en saluant l'initiative, la société civile locale rappelle que l'annonce des travaux est une chose, mais leur achèvement en est une autre. Héritier Isomela, son président, appelle à une surveillance citoyenne stricte pour éviter que ce projet ne devienne un énième chantier inachevé.
Et nous voulons vraiment voir l'effectivité des travaux dans la commune de Lubunga, parce que, vous savez, dans notre pays, nous sommes habitués avec des promesses non réalisées, de lancement des travaux non réalisés également.
L'entreprise MMF RDC Holding, chargée de l'exécution, est désormais au pied du mur. Pour garantir le succès du projet, Paulin Lendengolia a été clair. Respect strict des délais, 36 mois prévus pour l'entrepreneur, protection des ouvrages par les services de sécurité et surtout un appel au civisme de la population pour accompagner ces travaux. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Cultiver l'espoir, consolider la paix, assurer la justice pour les générations futures, c'est le thème de la 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire en cours à Istanbul, en Turquie. Intervenant hier jeudi, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a dénoncé l'agression dont le pays est victime dans sa partie est, appelant la communauté internationale à des actions concrètes. Insistant sur l'urgence d'une paix durable, il réaffirme la position de la RDC fondée sur le respect de la souveraineté des États, le dialogue dans le cadre constitutionnel et la lutte contre l'impunité. On écoute Aimé Boji Sangara dans cet extrait proposé par Grace Samzati.
au mépris du respect de l'intégrité territoriale, du droit international et en violation flagrante des instruments internationaux et régionaux relatifs à la défense et à la protection des droits humains, le Rwanda agresse de manière répétitive la République démocratique du Congo et s'est engagé dans un pillage systématique de minerais, commettant au passage des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce conflit récurrent a à ce jour causé la mort de plus de 10 millions de personnes, plus de 6,7 millions de déplacés internes, des centaines de milliers de réfugiés dans la région, et les Nations Unies estiment qu'une femme y est violée chaque 4 minutes. Bref, il s'agit ici de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des temps modernes. Pour les générations futures que nous ambitionnons de protéger, nous n'avons pas le droit d'échouer et l'histoire jugera notre capacité à transformer nos discours en actes. Pour mon pays, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des urgences vitales auxquelles le monde ne peut plus se soustraire.
Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale, sachez que ces assises ouvertes mercredi pour 5 jours réunissent plus de 2000 parlementaires venus du monde entier. La RDC est représentée également par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, ainsi que plusieurs députés nationaux et sénateurs.
Actualité internationale.
Nous sommes au Gabon, arrêté à son domicile mercredi soir. L'ancien premier ministre et principal chef de l'opposition fait l'objet d'une enquête pour fraude présumée et abus de confiance. Alain-Claude Bilié a été placé en détention provisoire hier soir. C'est ce qu'a indiqué le procureur Dick Fabrice Dorbongo, ajoutant que cela faisait suite à une plainte déposée par un citoyen gabonais. Les faits reprochés remontent à 2008 et concernent le non-remboursement d'une somme de 5 millions de francs congolais qu'il aurait perçu à la suite de l'organisation d'un festival culturel.
L'invité.
Les travaux de la route Kananga-Kalambambouchi dans la province du Kasaï central enregistrent des avancées significatives, précision donnée par le chef de mission de surveillance du projet au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Serge Dibouy, notre invité, il s'entretient avec André Katendengalamouloumé.
Ingénieur Serge Dibouy, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Le projet Kananga-Kalambambouchi, qui est une route de l'espoir pour la région du Kasaï, à quel niveau vous êtes déjà avec l'exécution des travaux?
Avant de commencer la modernisation, nous avons trouvé la route quasi inexistante. On pouvait faire une semaine pour quitter Kananga, atteindre la frontière Kalambambouchi. Mais nous avons donné aussi une promesse à la population, qu'on commence avec la modernisation de notre route et la praticabilité. La praticabilité qui veut dire on devrait ouvrir la route de bout en bout. Chose qui a été faite. Aujourd'hui, nous quittons la ville de Kananga à 8h. On arrive à Kalambambouchi, on travaille, on fait tout autour de 18h-19h. On a déjà regagné la ville. Qui veut dire on a terminé avec les travaux de praticabilité. En termes de modernisation, de construction de notre route de Kalambambouchi, là nous évoluons, nous sommes autour de PK50, où nous avons fait 20 km de couche de roulement, notre béton bituminé bien posé. Nous évoluons encore avec la couche de fondation, de couche de base, les caniveaux, nous évoluons tranquillement. Nous avons déjà fait 20 km de béton bituminé, nous avons déjà fait 30 km de couche de base et 37 km de couche de fondation.
Au total, le travail déjà effectué, c'est à quelle distance?
Vous pouvez faire 40 km sans avoir vu la terre. Et nous évoluons chaque jour ici, malgré le climat. Notre zone ici, surtout ce mois d'avril, il pleut presque chaque jour. Et nous sommes obligés de travailler avec, d'évoluer avec. Et le mois de mai, là, nous allons reprendre notre vitesse de croisière.
Nous avons vu à travers les réseaux sociaux des photos et vidéos montrant des véhicules stagnés dans des eaux de pluie. Sur la route, qu'est-ce qui a fait à ce que cela arrive?
Nous avions fait la praticabilité, c'est une route en terre. Nous avions fini, mais c'est prévu l'entretien. On a tardé légèrement avec l'entretien, mais la route est légèrement dégradée. L'entretien a déjà démarré et nous évoluons avec l'entretien. Nous arrangeons partout les tronçons déjà dégradés. Mais les photos que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est pas l'axe Kalambambouchi. Ce sont les voies de déviation. quand nous travaillons, quand nous sommes sur notre axe, nous exécutons les travaux. Il y a des fois là où nous arrivons, nous devons placer des buses, nous devons mettre des dallos, nous coupons la route. On ne peut pas pénaliser les usagers de la route. Alors nous faisons des voies de déviation pour permettre à ce que les produits de première nécessité qui viennent de Kalambambouj atteignent facilement la ville. Eh bien, c'est sur cette voie de déviation qui est dégradée complètement où vous avez vu les photos d'être distillées dans les réseaux sociaux. Et nous avons demandé à l'entreprise d'aller aussi arranger cette voie de déviation.
Vous veniez de nous dire que les travaux de modernisation sont à peu près 40 km alors que la route est de 230 km. Il y avait des promesses qu'à la fin de l'année 2027, la route devrait être finie de Kananga à Kalambambouji. Est-ce que vous êtes sûr que à la fin de 2027, ces travaux seront finalisés complètement?
Les travaux vont finir parce que tout est là. Malgré les intempéries, comme j'ai dit précédemment, nous évoluons, nous avançons. Et cette année, nous sommes au mois d'avril. Avant décembre, vous allez vous-même constater, vous allez revenir. Je vais vous recevoir, vous allez voir ce que nous aurons exécuté. L'année prochaine également, nous avons toute l'année, tout le temps pour travailler. Et pour votre information, nous allons encore renforcer les entreprises qui vont venir permettre à ce que nous soyons dans les délais. Une autre entreprise viendra juste pour s'occuper des ponts et pour nous permettre d'être dans les délais.
Ingénieur Serge Duboué, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Serge Duboué, chef de mission de surveillance du projet de la route Kananga-Kalambambouji au sein de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jean Gandou et mis en onde par André Mongo avec Babel Pongo-Massimango à la présentation. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon après-midi.